au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour. Je vais recommencer parce qu'on a le temps d'entendre les quatre bonjour. Bonjour Mathieu Tessier. Pourquoi quatre fois bonjour?
Ben là, vous êtes rendu à cinq.
J'ai augmenté aujourd'hui, mais c'était parce que j'ai bégayé. Hey, j'ai de la voix aujourd'hui.
Oui, on commence à vous reconnaître de plus en plus.
Deux semaines de laryngite, mais quand même, hein, ça ne nous empêche pas de faire de la radio. Alors, un gros bonjour tout le monde. Bienvenue à cette émission au quotidien. Et oui, l'hiver est de retour. Et d'ailleurs, je vais vous dire que nous sommes rendus au 309e jour de l'année. Il en reste 56 avant le bye-bye et 49 avant Noël.
C'est lui qui est le plus important des deux chiffres.
Ouais, ben, moi, j'attends toujours la suggestion de cadeau de Noël pour moi. Là, tu sais que j'ai beaucoup de choses que j'aime. Je peux en reparler.
Je pense que je vais vous acheter un foulard.
Oui, probablement. Une grosse émission aujourd'hui. Alors, on va parler de discrimination. Oui, beaucoup. En fait, on va parler de la campagne de financement et de sensibilisation du Gris Montréal avec Marie Ouzeau. Une campagne, donc, qui va aussi viser là, toute cette montée de la haine envers les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Et puis, on va parler de VIH aujourd'hui, le docteur Jean-Pierre Goutti, et puis Éric Fortin, qui est une personne avec le VIH et qui est président de Maison Plein Cœur, Barbada, Katie Antoine. On va parler de l'incidence du VIH et aussi du sous-financement ou du mal-financement pour les organismes qui font la défense ou qui aident les personnes vivant avec le VIH au Québec et au Canada. Entrevue avec Hugo Bélanger qui signe l'adaptation et la mise en scène de la pièce Candide d'après l'œuvre de Voltaire. C'est au théâtre Denise Pelletier et ça commence demain. Hein? Alors, on va voir ça. Et puis, on reçoit aussi Sylvain Gaudreau. On va parler justement de son livre, Sylvain Gaudreau, qui est ancien ministre de l'Environnement, entre autres, au Parti québécois, ancien leader du Parti québécois aussi. Donc, Rupture et révolution, une entrevue où il va, en fait, aussi critiquer très sévèrement le gouvernement de la CAQ et sa non-participation à cet événement qui a lieu présentement, hein, la COP30 à Belém, au Brésil. Aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est la neige. Bien oui, alors, des avertissements de neige continuent pour l'est du Québec et le nord du Québec. Ailleurs, dans le sud et aussi même en Ontario, c'est de la neige intermittente autour de 0 degré, peut-être de la pluie aussi. Du soleil est plus froid dans le nord ontarien, nord et aussi du Québec. Pluie intermittente et plus doux en Atlantique. Par contre, il y a un avertissement de pluie abondante pour la région d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Et puis, ça reste plus doux dans l'ouest du pays. Donc, allons-y avec quelques dates aujourd'hui. 1483, Martin Luther, réformateur religieux, hein, qui a initié la grande réforme protestante au 16e siècle. Et puis, si je vous disais qu'en 1919, c'était la naissance de Mikhail Kalachnikov, pourquoi on en parle? C'est lui qui a inventé le fameux fusil d'assaut qui porte son nom. Richard Burton est né en 1925, acteur britannique, hein, qu'on a connu dans Cléopâtre et qui a peur de Virginia Woolf. Ennio Morricone, hein, il est mort, lui, en juillet 2020, mais il était né, donc, en 1928, en ce jour, Le Bon, la Brute et le Truand. Décès marquant, Arthur Rimbaud, aujourd'hui, dans cette date, en 1891. Et puis, en 1977, l'Académie française, lors de sa révision de son dictionnaire, a atteint la lettre E et a ajouté quel mot vous pensez? Emmerdeur, emmerdé, emmerdant. Mais oui, ben oui. Cela dit, 1960, la chanteuse Édith Piaf enregistre la chanson « Non, je ne regrette rien » en ce jour sur une musique de Charles Dumont et les paroles de Michel Vauquer.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Avec avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Ça commence avec toi.
Un petit tour dans l'actualité maintenant. D'après la presse ce matin, le Québec a reçu sa première bordée hivernale, confirmant l'arrivée hâtive de la saison froide. La neige et la pluie verglaçante tombent depuis hier, entraînant des avertissements météorologiques et de sérieuses perturbations. Alors, au nord du fleuve Saint-Laurent, les régions des Laurentides, Lanaudière, Charlevoix sont les plus touchées, avec des accumulations prévues de 10 à 20 cm de neige jusqu'à cet après-midi. Les secteurs en haute altitude pourraient même recevoir jusqu'à 30 cm. Mon Dieu, l'hiver arrive avec vengeance depuis la dernière fois. Pour le sud, dont Montréal, l'air plus chaud que prévu a transformé une partie des perturbations en pluie et grésil, réduisant les quantités de neige à seulement 2 à 4 cm. Toutefois, le cocktail météo a rendu les routes extrêmement glacées et dangereuses. Un carambolage d'une vingtaine de véhicules est survenu hier sur l'autoroute 19 près de Montréal, nécessitant l'intervention des services d'urgence. Face à ces conditions, la Sûreté du Québec lance un appel à la prudence. Il faut ralentir, adapter sa conduite et installer des pneus d'hiver immédiatement. Bien que l'échéance légale, c'est le 1er décembre, on rappelle que de rouler sur des pneus d'été quand une chaussée est glissante, ça compromet sérieusement la sécurité. Le Canada participe à la COP 30, les pourparlers annuels de l'ONU sur le climat qui se tiennent à Belém, au Brésil, jusqu'au 21 novembre. On y souligne les 10 ans de l'accord de Paris. Cependant, la délégation sera menée par les ministres, donc la ministre de l'Environnement, Julie Batterson, et le ministre d'Identité canadienne, Stephen Guilbeault, qui, lui, y va comme ancien ministre de l'Environnement. Et le premier ministre, Mark Carney, lui, doit rester ici au Canada parce qu'il y a un vote de confiance d'ici demain sur le budget fédéral. Le Canada, donc, arrive à cette rencontre sous un feu nourri. Le pays a été récemment classé en dernière position dans un palmarès international sur les efforts climatiques. Ce constat est appuyé par l'Institut climatique du Canada qui a calculé les émissions de gaz à effet de serre du pays qui sont restées inchangées en 2024. Cette trajectoire fait douter les observateurs quant au véritable rôle du Canada en tant que leader climatique. Et puis un peu plus tard à l'émission, d'ailleurs, on va parler avec l'ancien ministre de l'Environnement, Sylvain Gaudreau, et ancien leader du Parti québécois, d'ailleurs, au sujet justement de son nouveau livre et aussi de cette COP 30. Les tensions s'intensifient dans le camp souverainiste au Québec, d'après Le Devoir, au lendemain de l'élection de Sol Zanetti comme nouveau co-porte-parole de Québec solidaire. Le PQ et QS s'accusent mutuellement de diviser le camp du oui. Ruba Gazal, co-porte-parole solidaire, reproche au Parti québécois de bâtir un camp qui exclut en manquant de volonté d'inclusion envers les citoyens issus de l'immigration. De son côté, le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, a qualifié les solidaires de désespérés, les accusant de faire du tort au climat politique, au climat social, en tentant de créer des divisions dans la population. Cette escalade verbale survient alors que les deux formations peinent à s'entendre sur une stratégie commune pour l'indépendance. 45e gala de la disque qui s'est déroulé hier et restera marqué par la razzia historique de l'artiste Lou Adrian Cassidy. L'autrice, compositrice et interprète a remporté 4 Félix lors de la soirée, puis en avait obtenu d'autres aussi lors de le premier gala, qui est plus technique, donc 12 statuettes pour elle. C'est l'un des plus importants butins de l'histoire du gala, rappelant la performance de Claude Pelgag en 2021. Cassidy a notamment remporté le prestigieux Félix de l'artiste féminine de l'année, celui du spectacle de l'année, le prix de l'auteur ou compositeur de l'année, qu'elle partage avec Alexandre Martel pour le journal de Loup-Garou. On fera jouer d'ailleurs une pièce un peu plus tard à l'émission, d'ailleurs, là-dessus. Et puis, parmi les autres gagnants, Élie Sapi a été couronnée artiste autochtone de l'année pour une 3e fois, tandis que les Cowboys Fringants ont obtenu le Félix pour l'album de l'année. Puis, pour la première fois après 20 ans d'attente, Pierre Lapointe, plutôt, a été sacré artiste de l'année, artiste masculin de l'année. Tu tournes maintenant dans les para-actualités. Eh bien, la chronique de Marc Defoy dans le Journal de Montréal du 7 novembre. Le gardien de but, Yacoub Diobès, a fait la manchette récemment après avoir affiché sa détresse suite à sa première défaite de la saison, soulevant un débat sur l'empathie envers les athlètes professionnels. À la télévision, certains intervenants, notamment de l'antichambre, ont manqué d'empathie. Sur les réseaux sociaux, et certains mélangeaient tout. Alors, malgré son salaire en millions de dollars, l'opinion publique est divisée face aux réactions émotives de ce joueur. Des experts en santé mentale confirment que l'anxiété peut toucher n'importe qui, peu importe leur statut ou leur fortune. L'incident de Diobès, donc, est ainsi utilisé pour rappeler l'importance de soutenir la vulnérabilité émotionnelle, même chez les athlètes privilégiés. Et puis, Cogeco Nouvelle du 7 novembre, le Centre de prévention du suicide de Montréal, le CPSM, lance une campagne de récolte de dons. Malgré les avancées en matière de santé mentale, les statistiques du suicide à Montréal sont stables depuis 15 ans, mais c'est un chiffre que le CPSM veut à tout prix faire baisser. Donc, 4 Montréalais s'enlèvent la vie chaque semaine. Ainsi, le CPSM cherche à amasser 4,5 millions de dollars sur 5 ans, donc pour l'aider dans sa mission. Une nouvelle étude de grande envergure vient réaffirmer le consensus médical concernant la prise de ce qu'on appelle d'acétaminophène ou de Tylenol pendant la grossesse. Publiée dans la revue médicale britannique BMJ ou BMJ, j'imagine, cette revue parapluie conclut qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, aucune donnée ne permet d'établir ce que disaient Donald Trump et sa gang, qu'il y avait un lien avéré entre l'exposition à l'acétaminophène in utero, donc pendant la grossesse, et l'apparition de troubles autistiques ou de TDAH chez l'enfant. Alors, cette conclusion vient contredire donc toutes ces allégations politiques. La communauté scientifique mondiale rappelle que l'acétaminophène est un antidouleur de choix pour les femmes enceintes. Les autres médicaments, comme l'ibuprofène, présentent des risques avérés pour le fœtus. L'étude renforce donc les recommandations médicales. Rapidement, l'animatrice et productrice France Beaudoin, ça c'est dans Vedette Québec du 7 novembre, populaire notamment grâce à l'émission à succès en direct de l'univers, s'apprête à animer un nouveau projet télévisuel spécial. Intitulé « J'ai souvenir encore », ce documentaire sera diffusé le mardi 2 décembre 2025 à 20h sur ICI Télé, Radio-Canada donc. Il s'agit d'une quête personnelle pour comprendre comment la musique peut ouvrir les chemins du cerveau et faciliter la communication chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. France Beaudoin partira donc à la rencontre d'experts et de scientifiques afin d'offrir un documentaire humain et sincère et accessible. D'ailleurs, il y aura un balado qui sera également disponible sur Audio de Radio-Canada.
Avec exploit l'ocre avec les gris, gens de messe, toutes ces mâchoires qui boit, qui claque, qui cherche à mort. Elle a trouvé sous un rocher une vieille caisse, à l'intérieur un serpent venin qui se dresse au bord du drame. On la désire, elle se sent.
La chanson parfaite à l'écran du groupe Carquois.
Oui, bien, on va être parfait aussi pour discuter de ce qui s'en vient. Donc, alors que l'on observe malheureusement une montée de l'intolérance envers les personnes LGBTQIA+, le Gris Montréal lance sa campagne de financement annuel sous le thème « Puissant ». Désapprendre l'intolérance, c'est encore possible. Aujourd'hui, nous recevons la directrice générale de l'organisme. C'est aussi une femme engagée dont l'impact exceptionnel a été récemment souligné par l'Université du Québec en Outaouais. Marie Ouzeau, directrice générale du Gris Montréal. Bonjour, bienvenue à l'émission, Marie.
Bonjour, Denis Martin, merci de l'invitation.
Alors, campagne du Gris qui est lancée avec un objectif de 375 000 $ sous le thème « Désapprendre l'intolérance, c'est encore possible ». Pourquoi? Pourquoi ce message d'action, d'espoir qui est mis de l'avant cette année?
Écoute, simplement parce que depuis les dernières années, il est impossible de passer à côté des discours de plus en plus polarisants qui malheureusement trouvent leur écho auprès de notre jeunesse. Donc cette intolérance qu'on ressent dans certains échanges, dans certaines classes, il a été appris, il a été inculqué, je dirais, et il est temps de se dire qu'il est encore possible de renverser la vapeur, en fait, et de redonner à nos jeunes de l'espoir, de leur redonner l'esprit critique nécessaire pour vraiment faire un meilleur usage de l'information, du flot d'informations qu'ils reçoivent, notamment dans leurs réseaux sociaux, pour revoir leur vision, en fait, de la diversité, des diverses façons d'être, que ce soit par rapport à l'identité de genre, à l'orientation sexuelle, mais par rapport à la diversité de façon générale, parce que toutes les minorités sont mises à mal en ce moment.
Oui, justement, le dernier rapport du Gris confirme une chute inquiétante du confort des jeunes face à la diversité. On a déjà fait une entrevue à cette antenne à Canalem il y a quelque temps sur le terrain. Alors, vous êtes surprise par ce changement de climat dans les écoles?
Surprise, plus ou moins, dans le sens où, moi je vais moi-même sur le terrain, puis nos bénévoles depuis quelques années nous avaient déjà fait part du fait que le climat se tend, se raidit un peu dans les écoles, hein, avec des questions qui sont plus chargées, avec des fois dans nos questionnaires de recherche, des commentaires qui sont... parfois franchement violent même. Donc, on s'attendait quand même à avoir un certain retour du balancier, si je puis dire. Mais quand on a sorti nos chiffres de recherche, quand on les a regardés plus en profondeur, c'est la vitesse, en fait, à laquelle ce recul a lieu et son ampleur qui, effectivement, nous a un peu surpris et surtout inquiétés.
Le Gris est le plus important organisme québécois de démystification au milieu scolaire. Combien d'ateliers sont donnés en moyenne et quelle réalité devez-vous aujourd'hui démystifier plus spécifiquement auprès des jeunes?
Alors, bon an, mal an, c'est entre 1000 et 1200 ateliers par année, donc à peu près 30 000 jeunes qui sont rencontrés chaque année, en fait, par nos 200 bénévoles. Alors, les questions sont très, très variées, en fait. Certaines questions touchent à leur réalité, à leur environnement habituel. Donc, pour les jeunes, vont demander, bon, est-ce que quand tu as fait ton coming out, tu as perdu des amis ou est-ce que tu as vécu de l'intimidation en milieu scolaire? Bon, ce genre de choses. Mais aussi, ils sont intéressés à savoir comment les familles ont réagi. Si ça a été compliqué, si comment dire, le milieu scolaire a été soutenant ou pas. Donc toutes ces questions-là. Puis l'autre versant qui les intéresse beaucoup, c'est d'essayer de se figurer dans le fond qu'est-ce qui est si différent pour les personnes queer de façon générale. Donc leur parcours, comment est-ce qu'ils s'en sont rendus compte, à quel âge, quels ont été les signes, qu'est-ce que ça a changé dans leur parcours de vie. Est-ce qu'ils veulent des enfants ou pas? Est-ce que ça a un impact sur la façon dont ils vivent leur relation de couple? Bon, etc., etc. Donc, ce sont vraiment des questions très, très précises où on voit que les jeunes veulent se faire une idée de ce que ça a comme impact dans le parcours d'une personne de la diversité sexuelle ou de la pluralité des genres.
Mais en même temps, j'ai l'impression, en lisant certains articles, certaines publications, que les personnes qui vont faire justement cette formation, qui sont des personnes queer, des personnes trans, reçoivent aussi des questions assez pointues et assez difficiles, pour ne pas dire un peu haineuses de la part des jeunes.
Oui, alors, bon, là, bien sûr, tu soulèves quelque chose d'important qui est que, avec justement la montée des discours polarisants, on a vu la résurgence ou l'arrivée, je devrais dire, de questions qui n'en sont pas, en fait. C'est-à-dire plutôt des commentaires déguisés sous forme de questions. Donc, ça peut être, mais est-ce que vous ne pensez pas que les femmes trans dans le sport, c'est de la triche, par exemple, hein? Donc, ça, puisque ça, on entend beaucoup de commentaires à cet effet-là dans les médias, sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être ce type de questions qui n'en sont pas et qui effectivement permettent aux jeunes de faire part de leur vision en fait et des visions qui sont teintées, comme je le disais un peu plus tôt, de ce qu'ils entendent dans l'espace public et dans l'espace médiatique. Mais heureusement, nos bénévoles sont bien formés et sont capables quand même de répondre à ces questions-là avec nuance et toujours sur base de leur vécu, parce que c'est ça la marque de commerce du gris. On n'est pas là pour convaincre, on n'est pas là pour faire des présentations théoriques ou partager des résultats de recherche, mais vraiment parler de leur expérience, comment par exemple eux ou elles ont vécu le fait de faire du sport ou de ne pas en faire, pourquoi ils en ont fait, comment ils se sont sentis dans des équipes sportives qui n'étaient pas inclusives de la réalité trans ou non binaire, par exemple. Donc ça permet de faire évoluer la vision des jeunes sur base du parcours de quelqu'un qui a vécu ces situations-là et qui est capable de mettre des mots et des émotions sur ce que ça lui a fait vivre.
Alors, on va parler un peu de la campagne. Vous avez vos fidèles porte-parole, Vincent Bolduc, Masha Limonchik, qui l'organisme pour la 17e année, c'est pas rien. Alors,
non.
quel rôle leur soutien joue-t-il justement dans la visibilité et l'atteinte de l'objectif de 375 000 $?
Écoute, on est suffisamment chanceux de les avoir effectivement à nos côtés depuis si longtemps. Puis ce qui est remarquable avec Macha et Vincent, c'est que ils vont saisir toutes les opportunités, toutes les tribunes auxquelles ils peuvent avoir accès pour parler du travail du gris. Je pense que depuis le temps qu'ils nous accompagnent, ils font vraiment partie de la famille. Puis ils connaissent bien certains de nos bénévoles. Ils sont allés observer en classe. Ils ont vu les faits. Des interventions et donc ils sont capables de vraiment de bien porter notre message. Et je pense que c'est très important aussi. Nos porte-paroles ne sont pas membres de la communauté, puis c'est vraiment quelque chose qu'on veut parce qu'on veut que nos messages, que les messages d'inclusion soient portés par tout le monde et non pas seulement par des personnes issues des minorités. La place des alliés est plus que jamais indispensable. Parce que toutes les espaces de silence qu'on laisse, eh bien, ce sont les discours polarisants et même fascisants, en fait, qui s'en saisissent. Donc, c'est très important, justement, d'avoir des personnes qui sont hétérosexuelles, qui de plus sont parents, et qui peuvent prendre parole pour témoigner de l'indispensable travail fait par nos bénévoles.
Marie, on va parler de vous. Vous avez reçu un doctorat honoris causa de l'Université du Québec en Outaouais. Qu'est-ce que cette reconnaissance représente pour vous personnellement et pour la lutte contre l'homophobie, la transphobie et le gris?
Eh bien, commençons par moi. Alors, une grande surprise d'abord, et puis un grand honneur. Vraiment, je le reçois avec beaucoup d'humilité, bien sûr, mais beaucoup de joie aussi. Je trouve que, enfin, ça m'a particulièrement touchée parce que c'est une reconnaissance qui met bien de l'avant ce que j'ai essayé de faire dans ma carrière, c'est-à-dire de mettre autour de la table plusieurs milieux, plusieurs façons d'aborder les questions, puis cette reconnaissance venant du milieu académique pour mon travail au sein du milieu communautaire, je trouve que ça parle bien de ce que j'ai essayé de faire avec les moyens du bord. Et puis pour la cause, pour l'organisme, c'est encore une belle opportunité de mise en lumière en fait du travail du gris. Il est certain que je n'aurais jamais eu cette reconnaissance sans le travail incroyable que les bénévoles du gris font depuis 30 ans. Moi, ça fait 22 ans que je suis là, mais sans eux, sans elles, ça serait jamais arrivé. Donc, c'est vraiment important de reconnaître ça.
Bien, félicitations pour ce doctorat. Grand merci, Marie Ouzo, directrice générale du GRI Montréal, pour le leadership, le travail qu'elle et ses bénévoles font hein, pour continuer à désapprendre l'intolérance. Et je rappelle pour ceux et celles et celles qui veulent contribuer à la campagne de financement du GRI Montréal, on peut faire un don sur gris.ca/donner avec EZ, c'est ça?
C'est ça. Merci beaucoup, Denis
Merci
Martin.
Beaucoup. Alors, nous, on continue après la pause. On va parler de VIH avec le Dr Routy et Éric Fortin et Barbada et Katie Antoine. Une belle grande entrevue qui s'en vient. D'ici là, on vous recommande, mettez vos pneus d'hiver. Faites attention, c'est glissant dehors. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Jamais rien après chaque classe. Après 2 heures au village, je connais déjà toutes les ragots. Pas mal sûr, je serai le seul dans le bord qui aura pas une chemise camouflée. Faites deux pas vers la gauche, maintenant faites un clap. Maintenant vers la droite, deux fois, faut que le plancher craque. Drop le pop shake, montre ce que tu peux faire. Maintenant saute une chance, sois prêt pour le refrain.
J'ai vu les rayons du soleil qui reflètent sur l'eau. J'ai vu les filles du village prendre un petit verre de trop. J'ai fait le tour des îles 2000 fois en bateau. Non, c'est pas mon premier rodéo. Mon premier rodéo. La musique country, puis de la bière dans le frigo. Responsable dans le champ, et lui, oui, y'a pas de réseau. Si on veut le vivre ensemble, yeah, you already know. Non, c'est pas mon premier rodéo.
La chanson Premier Rodéo de Laurence Saint-Martin.
Il y a beaucoup d'actions dans le studio présentement, plein de monde, ça fait du bien, c'est le fun d'être en groupe. Alors, c'est le fun, mais c'est pas un sujet qui est vraiment un sujet heureux. Hein. Si les progrès médicaux ont rendu le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, gérable, on note malheureusement une augmentation des nouveaux diagnostics au Canada et au Québec, une tendance jugée décourageante par plusieurs experts qui soulignent un manque de volonté politique et de financement. Alors, quoi de mieux qu'aujourd'hui d'en parler parce qu'il y a un organisme qui s'appelle Maison Plein Cœur qui lance une campagne de financement cruciale. Alors, on a pensé des invités pour justement parler de ce sujet-là. On a avec nous Éric Fortin, qui est président de Maison Plein Cœur, et je peux me permettre qu'il vit lui-même avec le VIH. Bienvenue à l'émission, Éric.
Bonjour, Denis Martin. Merci de nous avoir invités.
Merci d'être là. On a aussi les porte-paroles. C'est important, des porte-paroles dans des campagnes de financement. On reçoit donc Katie Antoine, qui est une artiste et entrepreneur sociale, qui est aussi animatrice ici à Canalem. Salut, Katie.
Salut.
Et on a là notre populaire, notre amie. Elle est souvent ici, notre chère Barbada. Est-ce qu'on dit Barbada aujourd'hui?
Oui, absolument, c'est Barbada. C'est toujours Barbada.
Toujours Barbada. C'est parce que Barbada n'a pas mis sa perruque aujourd'hui.
Ben non, mais en même temps, Barbada, des fois, c'est pas de perruque. Barbada, c'est avec perruque.
Tout à fait, parfait. Alors, écoute, je vais vous le dire, on devait recevoir le docteur Routier qui, malheureusement, a un empêchement assez sérieux. Donc, on va demander à Éric Fortin et à la gang de compenser un petit peu pour la science que devait nous amener Dr. Routy. Les dernières données indiquent une augmentation importante là, des nouveaux cas de VIH. Là, on parle de 2022-2023. Les chiffres 2024 devraient sortir cette année. Là, je pense qu'au 1er décembre, c'est justement à ce moment-là qu'ils sortent. Comment on explique cette recrudescence alarmante là, alors que on fait tout ce qu'on peut pour freiner le VIH?
Ben en fait, ça s'explique par un grand manque de volonté du gouvernement d'informer et de faire des campagnes d'information à ce niveau-là. Puis c'est vraiment dommage parce que le VIH aujourd'hui, c'est une épidémie qu'on pourrait enrayer probablement en 5 ans. Parce que désormais, quand quelqu'un est dépisté, traité et prend ses traitements antirétroviraux, il ne peut plus transmettre le VIH. Et pour avoir été l'année passée à la conférence de Munich sur le VIH-SIDA, c'est une situation qui est mondiale. Puis il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers parce qu'ici, ça ne veut pas dire que nos acquis, on ne peut pas les perdre. Puis on le voit parce qu'il y a de plus en plus de contamination. En fait, le message passe tellement pas que moi, j'entends des choses qu'on entendait dans les années 80, puis j'entends l'extrême des gens qui disent « Ah, le VIH, c'est réglé, vous prenez une pilule, c'est une maladie chronique, vous avez plus de problème avec ça. » Fait qu'on voit qu'il y a vraiment un grand manque au niveau de l'éducation, puis nous, les organismes communautaires, on n'a pas les moyens de rejoindre toute la population pour en parler.
J'aimerais juste revenir à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit qu'on retrouve des discours qu'on entendait dans les années 80. Quelle sorte de discours?
Ben pour te donner un exemple, j'ai fait une entrevue radio l'année passée pour la journée du 1er décembre à la Radio-Canada Bas-Saint-Laurent. Puis l'animateur me parlait du cancer des gays.
Oh!
Il y a 6 mois, je suis allé chez une coiffeuse. Puis la coiffeuse m'a demandé, quand je lui ai parlé que je travaillais dans le milieu du VIH-SIDA, elle m'a dit « Est-ce que ça se transmet par la salive? »
Oh boy, OK, on est vraiment rendu... J'ai entendu une réaction de Barbada.
Oui, voyons donc, il me semble que c'est des discours qui sont dépassés, qui devraient plus, même dans la population qui connaît peu le VIH-SIDA, c'est comme un minimum de savoir ça dans ma tête à moi, puis je trouve ça quand même ahurissant. Puis effectivement, je suis d'accord avec ce qu'Éric dit, que le manque d'informations par rapport à ça est quand même criant quand on entend des choses comme ça, là. Je pense que c'est...
Ouais. OK, tu sais, je te vois, parce que je sais que ta maman, elle est infirmière, elle a déjà travaillé dans ce domaine-là.
Oui, mais moi, ça me fait réaliser que c'est pas gagné. Il faut toujours répéter le message, le marteler et aussi se responsabiliser. Il ne faut pas penser que les jeunes vont adopter des habitudes sécuritaires. S'il n'y a pas de courroie de transmission, s'il n'y a pas de communication... Moi, mes enfants, ils ont aujourd'hui 21 et 19 ans et ils sont dans ce système scolaire québécois qui ne leur enseigne pas l'éducation sexuelle. Il n'y a pas de conversation sur les enjeux, sur comment s'aimer et avoir du plaisir sans mettre sa vie en danger.
Je reviens à Eric parce que je l'ai mentionné, tu es une personne qui est avec le VIH, puis moi, je peux le dire moi aussi, alors on est deux à la table ici.
Oui.
Est-ce que... Quel est ton regard sur cette banalisation, justement, du virus mentionné, là, qu'on mentionne depuis tantôt, ou le fait qu'on a peu d'informations? Puis est-ce que c'est peut-être des choses comme la PrEP qui est très efficace, qui a induit une photo de sécurité, peut-être?
Peut-être, mais la PrEP a aussi des conséquences. On voit une recrudescence des ITSS comme la syphilis, la gonorrhée. On est rendu avec des gonorrhées qui ne réagissent plus aux antibiotiques. Mmh. Alors, il y a un côté négatif à ça aussi. Puis, il y a comme l'espèce de pensée magique que la pilule va tout régler. Mais on sait très bien que vieillir avec le VIH, on développe des comorbidités. Il y a un vieillissement prématuré du corps dû à l'inflammation. Ce qui fait que c'est encore un problème aujourd'hui, puis encore aujourd'hui, recevoir un diagnostic de VIH, ça fait que souvent les gens s'isolent, subissent de la stigmatisation, mais souvent se font eux-mêmes de l'auto-stigmatisation et se ramassent complètement isolés parce qu'ils ont peur de retourner et de continuer à fonctionner dans la société. Et c'est là que Maison Plein Cœur joue un rôle important, puis Maison Plein Cœur a joué un rôle important pour moi aussi. Parce que, comme tu sais, Denis Martin, moi, en 91, quand Maison Plein Cœur a été fondée, moi, à l'époque, j'étais ce qu'on appelait à l'époque, aujourd'hui, on ne dit plus ça parce que c'est péjoratif, mais j'étais un junkie, puis je vivais dans la rue. Puis c'est comme ça, moi, que j'ai attrapé le VIH. Puis en 96, j'ai eu mon diagnostic. Mais moi, j'ai eu la chance immense que la trithérapie venait d'arriver. Mes amis qui étaient décédés dans les années précédentes n'ont pas eu cette chance. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Toute cette époque-là a comme été effacée de la mémoire collective, puis on dirait que les gens ne veulent plus en parler, mais c'est là. Puis il faut continuer d'en parler, puis il faut expliquer les progrès qui ont été faits, mais il faut vraiment faire de l'éducation. Comme Katie disait, l'éducation sexuelle à l'école, c'est la base de tout. Puis présentement, je veux dire, il n'y a pas d'effort fait en ce sens.
En effet. Au quotidien, c'est quoi les besoins les plus pressants des personnes vivant avec le VIH?
Les besoins les plus pressants, c'est qu'on est dans l'intersectionnalité. On a beaucoup de personnes maintenant qui vivent avec le VIH qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de toxicomanie, des problèmes de pauvreté, aussi des problèmes de santé liés au vieillissement prématuré dont je parlais tantôt. Ce qui fait que moi, ce qui me blesse profondément, c'est que notre gouvernement ne comprenne pas qu'on est aux premières lignes. Les organismes comme Maison Plein Cœur, puis je suis aussi le vice-président de la COXIDA.
En effet.
Et on représente 37 organismes au Québec. On est aux premières lignes et les gens dont on prend soin, qu'on supporte, ces gens-là souvent ne se rendront pas dans le système de santé parce qu'on les prend en charge. Mais si ces organismes-là n'ont pas les moyens de rendre les services qu'on est supposé rendre, comment imaginez-vous que le service de santé va absorber dans la condition actuelle ces gens-là, va pouvoir en prendre soin? Puis c'est, on dirait que ça ne rentre pas dans la tête du gouvernement. S'ils nous aidaient à faire notre mission convenablement avec les moyens dont on a besoin, au bout du compte, ils sauveraient énormément d'argent. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais une personne en moyenne sur une vie avec le VIH, c'est minimum 1 million que ça coûte au gouvernement. Alors, à court terme, s'ils prenaient les moyens pour sensibiliser, détecter et traiter les gens, imaginez l'argent qui s'ouvrait au bout de la ligne.
J'entends ça, je vais me permettre un commentaire. Je suis allé voir Corps Fantôme chez Duceppe. À chaque fois que je revois cette époque-là, je me dis, mon Dieu, si les gouvernements avaient fait de quoi à l'époque, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette épidémie-là qui, maintenant, on a un virus multirésistant à plein de choses et on ne sait plus comment le traiter. En tout cas, ça, c'est une autre paire de manches.
Hein? Oui, ça, on pourra en parler longtemps.
On pourra en parler longtemps. Les groupes communautaires, donc, tu le dis, Eric, sont essentiels hein, depuis le début de la pandémie. Puis c'est pas juste une question de charité, là. Tu le dis, c'est une question de bon sens, de santé publique essentielle. Comment ça se fait que ça marche pas?
Je comprends pas, parce que moi, je suis sur un comité qui existe depuis la conférence de Montréal en 2022. On a fondé un comité qui s'appelle Québec sans sida. Puis on essaie de contacter le gouvernement. Puis on a même pas d'accusé de réception. Les seules personnes qu'on a pu rencontrer, c'est les personnes de l'opposition, soit du Parti libéral ou du Parti Québec solidaire, qui ont essayé de nous aider du mieux qu'ils pouvaient. Mais pour le reste, on dirait qu'on fait comme si ça n'existait plus. Mmh. C'est comme, carrément l'impression que ça me donne, moi.
Comme ça touchait dans le temps, on parlait des fameux H, là, hémophiles, homosexuels, je sais pas, c'est quoi, haïtiens. Il y avait 4 H, là, je ne me rappelle pas d'autres, là, mais en tout cas, il y avait...
Il y avait les drogues par injection
oui,
aussi.
Oui, c'est ça. Mais... Ouais, ouais.
Puis ça, c'est une autre histoire, hein, parce que quand ils ont commencé à développer... La recherche a accéléré quand ils se sont rendus compte que c'était les hétéros pouvaient l'attraper aussi.
Ouais.
C'est Magic Johnson qui a changé la donne là-dessus.
Oh boy!
5 ans après, on avait la trithérapie. Mais avant ça, il n'y avait pratiquement rien qui se faisait.
Vous allez me permettre, parce que Maison Placard est en campagne de financement. J'ai vu votre vidéo. Je vais juste faire entendre un petit peu la musique aux gens, puis on revient là-dessus. Je ne sais pas lequel ou laquelle d'entre vous pourrait un peu décrire qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo.
Ben, je peux en parler parce que l'idée originale, c'est moi qui l'ai eu à cause de la chanson. C'est mon copain Frigide qui a écrit la chanson. Puis pour moi, cette chanson-là, c'est dommage qu'on puisse pas mettre les paroles parce qu'elles sont en anglais. Mais c'est vraiment... le titre, c'est « The Ride », en fait. Et l'image, c'est la ride entre le diagnostic et Maison Plein Cœur. Moi, ça m'a pris beaucoup trop de temps à arriver à Maison Plein Cœur. Puis j'ai perdu beaucoup d'années à m'isoler puis à vivre seul avec mon problème puis à ne pas pouvoir en parler. Puis Maison Plein Cœur a transformé ma vie. Quand je suis arrivé à Maison Plein Cœur en 2015, j'ai vraiment repris confiance en moi. Je me suis plus senti seul. Aujourd'hui, tout le monde sait que j'ai le VIH. Puis ça m'a enlevé un poids énorme. Parce qu'on ne peut pas imaginer à l'époque le poids qu'on avait sur les épaules quand on avait un diagnostic. Moi, mon diagnostic en 96, si la trithérapie ne fonctionnait pas, il me restait 18 mois à vivre. Puis le sentiment d'être un danger pour les autres aussi, c'était quelque chose d'horrible. Puis pour ça, ça a vraiment changé ma vie. C'est le I égale I, indétectable égale intransmissible. Puis c'est à partir de là que j'ai pu plus en parler. Mais Maison Plein Cœur m'a vraiment aidé là-dedans. Alors la vidéo, c'est ça. C'est l'histoire entre le diagnostic et Maison Plein Cœur, c'est la ride que tu peux faire. Elle peut être courte, elle peut être longue, mais moi, j'invite les gens qui apprennent encore aujourd'hui, qui viennent d'apprendre qu'ils ont le VIH, à aller chercher de l'aide.
En c'est fait, la ride dans la vidéo, c'est en métro. Je te fais une blague, ça dépend. Si tu prends le métro à l'extérieur des heures où il y a du service, ça risque d'être long. Bon.
Mais j'aimerais quand même vous amener sur l'image. Elle est dans le métro. Là, on n'a pas encore la version longue. Elle va diffuser à partir du 26 novembre. Mais elle émerge du métro.
Ah, OK. On l'a pas vu émerger encore.
Ben, okay. Dans la vidéo, vous le voyez, elle monte et elle sort du métro et elle s'en va à Maison Plein Cœur.
D'accord. Mm. Barbada et Antoine, vous êtes les porte-parole de cette campagne qui vise à amasser 100 000 $ pour les 35 ans de Maison Plein Cœur. Quel message vous souhaitez passer à la population?
C'est sûr, évidemment, que c'est, on l'a dit, c'est l'information, c'est de l'éducation aussi. Moi, en tant qu'éducateur aussi, c'est un message que je pense qui est important, surtout quand on entend des choses comme « Mon Dieu, est-ce que ça se transmet encore par la salive? » Faut que les gens comprennent qu'est-ce que c'est le VIH pour justement après réaliser que... réaliser l'importance de cette maladie encore dans nos vies, malheureusement, dans la vie de certaines personnes, mais aussi réaliser que « Hey, tu peux continuer, arrêter cette stigmatisation-là des personnes qui vivent avec le VIH. » Je pense que c'est un des plus gros défis, puis c'est probablement pour ça aussi que des gens s'isolent lorsqu'ils apprennent leur diagnostic, c'est que justement, ils sont pas éduqués à cause des ressources, ils ne comprennent, ils savent pas quelles sont les ressources comme Maison Plein Cœur, comme d'autres organismes, comme ça, mais aussi parce que probablement, ils se disent, ma vie, soudainement, je suis devenu un danger public. Les gens ne comprendront pas ce que je vis, ce que je suis, ce que je... Et c'est là qu'ils s'isolent, puis c'est justement ça qu'il faut pas. Alors, je pense que c'est l'affaire importante, c'est d'éduquer autant la population en général, autant les populations qui sont à risque, évidemment, pour faire en sorte qu'elles n'attrapent pas le VIH, qu'elles ne contractent pas le VIH, mais aussi, si ça arrive qu'elles le contractent, qu'elles ne s'isolent pas, comme Éric vient de le dire, comme c'est arrivé quand toi, tu as eu ton diagnostic, de se rappeler qu'il y a des ressources, d'informer ces personnes-là pour éviter que ces personnes-là s'isolent. C'est la pire chose à faire quand on a quelque chose comme ça, de le vivre tout seul.
Je t'envoie la balle, Katie, parce que je trouve ça important de mentionner que dans l'hémisphère nord, le VIH, c'est beaucoup plus une maladie d'homme. Hein? On est plus nombreux. Mais dans l'hémisphère sud, c'est essentiellement une maladie de femme. Puis je pense qu'on ne parle pas assez du VIH chez les femmes.
Oui, puis en fait, moi, pourquoi j'ai accepté l'invitation de Maison Plein Cœur à les aider dans la campagne de financement, c'était vraiment pour envoyer ce message que le VIH ne connaît pas la couleur, ni le genre, ni l'âge, ni ta fonction dans la société, ton statut. Donc, c'est important de savoir que cet établissement existe parce qu'il y a un besoin grandissant dans la société et que le visage de la clientèle ciblée change. Mmh. De plus en plus de jeunes femmes afrodescendantes ou d'autres nationalités. Mais en fait, il y a vraiment un visage qui change là, auprès de la population qui a besoin de soins. Donc moi, j'ai été vraiment saisie, sensible à cette nouvelle, même pas nouvelle, mais cette réalité grandissante. Puis j'avais envie de joindre ma voix, mon visage, ma notoriété, puis aussi la proximité que j'ai avec les communautés afrodescendantes du fait que je suis animatrice, j'ai une plateforme, j'ai un micro et je suis aussi maman.
Hein, oui.
Ça, je le répète tout le temps. Puis ça, c'est un rôle qui n'est pas à prendre à la légère. Quand on met des enfants au monde, si on veut bien les accompagner, il faut aussi les outiller à prospérer, à bien vivre dans leur environnement. On est dans un environnement où cette dynamique existe. Hier, j'ai eu une conversation avec mon fils, sachant qu'on allait venir ce matin, pour juste répéter ce message de se protéger, de faire attention, t'sais, d'être vigilant, parce que la meilleure façon de contrecarrer cette épidémie, selon moi, c'est vraiment de se responsabiliser.
Il nous reste à peine une minute.
Oui, en fait, ce que Katie dit, c'est tellement important parce que nous, à Maison Plein Cœur, le pourcentage de femmes dans nos participants et participantes est rendu à 55 %. Ouais. Alors, le visage a vraiment changé.
Mmh. Un rappel, donc, les gens qui veulent aider la campagne de financement, ils font quoi?
Ils vont sur notre site web avec, il y a un lien don. On a aussi notre vidéo sur YouTube, nos réseaux sociaux. Vous pouvez trouver le lien pour faire un don partout. Mais le meilleur endroit, c'est sur
maisonpleincoeur.org, c'est très
exactement,
clair.
Exactement, oui.
Merci beaucoup, Éric Fortin.
Puis on a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous.
Merci beaucoup, Éric Fortin, président de Maison Plein Cœur. Merci au porte-parole de la campagne de Maison Plein Cœur, Katie Antoine et Barbada. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au cinéma, lever les yeux pour la première fois. Endormi dans tes bras. Et puis plus rien, du jour au lendemain, un cheval noyé, une histoire sans fin. Les jujubes et le cinéma. Je le connais déjà. Dis-moi, te sentais-tu trop vieux? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Es-tu la même? As-tu croqué la pomme? J'ai aperçu des marques dans ton cou. Sous cou, traîné dans la boue. Changé de maison et changé de nom. Et oui, te donner trois reprises. As-tu trouvé, crois-tu avoir compris? Ce piège, on se lit sous la neige. Cette fois, les eaux se referment sur toi. Et moi, l'horizon, je le vois. Et je chante plus fort pour enterrer.
La chanson « Dis-moi, dis-moi, dis-moi » de Lou Adrienne Cassidy.
Et je répète donc qu'il a remporté 12 statuettes au prix Félix, à tous Félix, au Gala de la Disque, c'est quand même pas rien. 4 hier, mais il y en avait eu d'autres aussi auparavant, lors d'un gala un peu plus technique. Il me reste un petit peu de temps. Je voudrais vous dire qu'en Nouvelle-Écosse, un juge provincial a approuvé un règlement de 32 millions de dollars pour indemniser les personnes handicapées victimes de discrimination systémique. Ce règlement découle d'un recours collectif majeur intenté contre la province. Il pourrait bénéficier à près de 2600 résidents qui n'ont pas obtenu de soutien communautaire adéquat pour le logement et les services. Ce jugement marque l'un des plus importants règlements de recours collectif dans l'histoire de la Nouvelle-Écosse, reconnaissant la discrimination passée et ouvrant la voie à l'indemnisation des personnes touchées. Le processus de réclamation pour la majorité des fonds devra prendre environ 2 ans. Et puis, selon Radio-Canada, un premier plan stratégique quinquennal sur l'accessibilité du Nouveau-Brunswick visant une culture de l'accessibilité d'ici 2040 est accueilli avec scepticisme par les communautés concernées. La présidente de la Coalition des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick, Shelley Petit, s'inquiète du manque de clarté du plan et doute que les récents commentaires du public aient été considérés, le plan ayant été dévoilé seulement 4 jours après une consultation. Elle déplore aussi la sens de section sur l'accessibilité dans le plan quinquennal sur le tourisme. Bien que le gouvernement affirme que la stratégie est un important point de départ pour établir des normes dans les 8 domaines clés, la coalition exprime des doutes quant à la capacité de la province de supprimer tous les obstacles et assurer la conformité, notamment chez les petites entreprises. Et j'ai encore un petit peu de temps. Donc, une avancée scientifique majeure pourrait marquer la fin de la cécité causée par l'opacité de la cornée. Des chercheurs italiens ont annoncé lors du congrès CISO-EMO qui a eu lieu à Rome que la thérapie cellulaire régénérative pourrait bientôt remplacer les greffes de cornée traditionnelles, une technique donc qui implique une injection unique de cellules pour régénérer la cornée défaillante, rendant le tissu à nouveau transparent. Cette méthode qualifiée de miracle par certains permettrait de pallier la pénurie de tissu et d'éviter les complications post-opératoires. Il me reste quelques secondes pour vous dire que c'est toujours le retour de l'hiver. Alors, faites attention sur les routes, surtout dans l'est du pays. Et après la pause, on va parler de Candide, l'adaptation d'Hugo Bélanger, présentée au théâtre Denis Pelletier.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Le théâtre Denis Pelletier nous invite à une relecture audacieuse et éclairée d'un grand classique de la littérature, Candide de Voltaire. Adaptée et mise en scène par Hugo Bélanger, cette fable philosophique promet d'être à la fois ludique, irrévérencieuse et profondément actuelle. Une œuvre qui nous invite à rire de l'absurdité du monde. Nous accueillons donc aujourd'hui pour en parler Hugo Bélanger. C'est l'homme derrière donc cette création. Bienvenue à l'émission.
Merci.
Alors, Voltaire est un pilier et son conte est connu. Pourquoi avoir choisi de vous attaquer à Candide maintenant? Et vous en faites donc, expliquez-nous un peu cette relecture que vous faites éclater de cette œuvre.
Ça fait longtemps que j'y pense. C'est même Pierre Rousseau, l'ancien directeur artistique du Théâtre Denis Pelletier, qui m'en avait parlé à l'époque. Après, Lorraine Pintal m'avait proposé de le monter au TNM, mais c'était une adaptation déjà écrite par Pierre-Yves Lemieux. Puis je voulais écrire ma propre adaptation. J'avais une idée en tête. Et c'est drôle, mais on dit souvent les classiques sont encore actuels et tout ça, mais celui-là, vraiment, vraiment beaucoup, parce que c'est un texte qui parle, qui critique comme qu'est-ce qu'on fait quand on prend conscience des horreurs du monde. Et on vit une époque avec Internet où on voit le réchauffement climatique, on voit l'arrivée de Trump, on voit plein de choses qui nous bouleversent, puis on se demande toujours qu'est-ce qu'on peut faire devant tout ça. Est-ce que c'est de fermer les yeux et comment on peut agir et tout ça? Et ce texte-là parle de ça. Comment, quoi faire quand on est écrasé devant toutes les pires calamités qu'on voit autour de nous?
Donc, on parle d'une adaptation qui est qualifiée de libre et audacieuse. J'avoue, je ne l'ai pas vu. Ça commence demain, puis moi, mon billet, c'est vendredi. Mais comment avez-vous réussi à trouver le juste équilibre entre le respect d'un texte philosophique et la fantaisie et la démesure que vous voulez y injecter?
Il faut savoir que c'est un conte philosophique, puis c'est une comédie, c'est drôle, c'est ironique. Voltaire a choisi l'humour pour se moquer des pires travers de l'humanité, d'en rire au lieu de juste s'effondrer en larmes. Donc, j'ai voulu transmettre cette espèce de critique comique, parce que sans arrêt l'histoire il y a des mises en abîme, des personnages racontent leur histoire, des personnages qui meurent, qui reviennent à la vie sans arrêt, donc il y a vraiment un côté très drôle dans l'histoire. Donc j'ai voulu mettre ça sur scène en utilisant les codes du théâtre, donc en mettant clairement l'histoire racontée par un chœur, un groupe de battleurs qui racontent l'histoire. Donc, quand ils jouent, c'est jouer une reine, mais c'est un personnage qui joue la reine, c'est jamais la reine. Donc, ça permet de critiquer, un peu comme le fou du roi, qui permet de parodier puis de critiquer sans arrêt. Et le chœur de comédien critique aussi le roman, l'histoire sans arrêt. Comme ça amène à des discussions et des réflexions, comme il y a dans le conte sans arrêt, c'est des discussions entre les personnages qui remettent en question plein de chose. Donc, je voulais exprimer ça sur scène, transmettre, utiliser les codes du théâtre pour faire parler le roman.
On a vraiment l'impression donc, qu'il y a donc une espèce, vous jouez sur le décalage hein, entre une espèce de comédie, de choses passées, présentes, sérieuses. Comment vous avez fait pour tout vous retrouver là-dedans puis faire une mise en scène? Parce que non seulement vous avez adapté le texte, vous avez fait la mise en scène, là.
Oui, ben oui, c'est ça. Ben c'est une critique. On critique les puissants de ce monde. Fait que c'est vraiment l'idée, c'est que justement, exemple dans le roman, à l'époque, c'est drôle parce que les chapitres expliquent ce qui va se passer dans le roman. Donc c'est avant dans le chapitre. Donc c'est un peu ça va un peu le punch. Exemple, le chapitre, je sais pas, 22e, comment Candide tu as telle personne, par exemple. Puis là, le monde... Sauf que là, on dit tous les chapitres, tout le cœur dit les chapitres, fait que les personnages réagissent un peu à qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire. Voyons, je peux pas faire ça. Donc, ça questionne aussi un peu le libre-arbitre. Est-ce que tout est écrit d'avance? Est-ce qu'on peut prendre des propres décisions? Et c'est une histoire quand même... C'est drôle un peu parce que c'est une histoire que les gens connaissent indirectement. Parce qu'il faut savoir, exemple, Forrest Gump, le film Forrest Gump, très bien connu,
oui,
est un remake de Candide. Peu de gens savent ça, mais c'est un remake. C'est exactement la même histoire.
Mais
l'apprenez. Oui, c'est exactement la même histoire. C'est un jeune homme naïf qui traverse des guerres, plein de choses terribles et qui est amoureux d'une fille qui veut pas vraiment de lui puis qui revient à la fin. C'est la même histoire. C'est la même structure. Donc... Et donc, ça permet une critique dans Forrest Gump, où on parle de la guerre du Vietnam, on parle de plein de choses, de l'histoire des États-Unis, mais c'est la même chose. Donc, Candide va se promener à travers des guerres, l'Inquisition, il va aller en Amérique du Sud découvrir les cités d'or, il va retourner à Constantinople, il va partout dans le monde, donc c'est une aventure. Vraiment une aventure, donc c'est passionnant, que ça s'arrête jamais, il y a plein de lieux différents, il y a 8 comédiens qui jouent 50 personnages, donc c'est quelque chose de très, très, très foisonnant.
Ah, ça va être fou, j'ai hâte de voir ça. Candide pose une question fondamentale, hein? Comment rester optimiste face aux duretés du monde? Vraiment, là, je trouve que c'est vraiment d'actualité avec ce qu'on vit présentement. Comment votre adaptation, justement, fait ça là, dans le monde actuel, là?
Mais c'est la fameuse question que se pose quand Voltaire. Voltaire a été très marqué à l'époque par un tremblement de terre qui a fait des milliers de morts, puis s'est dit bon, comment ça se fait que la nature permet des choses comme ça? Si Dieu existe, comment ça se fait qu'il permet ça? Qu'est-ce qu'on fait quand on voit des choses comme ça? Comment rester optimiste et croire dans la vie? Et justement, Candide a deux philosophes avec lui. Il y a Pangloss qui lui dit que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, tout est toujours bon. L'espèce d'optimisme un peu béat. Et tu as un autre personnage, Martin, qui est le pessimiste, le philosophe pessimiste qui est tout va mal. Donc, je pense que l'être humain, on doit naviguer un peu entre les deux. On a toujours l'impression qu'on vit à la pire époque de l'humanité. Si on demande aux gens, on va dire « Ah, c'est le pire moment de l'histoire ». Mais allez dire ça aux gens à l'an 1000 au Moyen-Âge, je suis pas mal sûr qu'ils disaient que c'était aussi le pire moment de l'histoire. Donc, on a souvent l'impression de vivre le pire. Et pourtant, on continue à avancer, continue à faire des enfants, continue à essayer de progresser parce qu'on a toujours un petit espoir au fond de nous que ça va aller mieux, que l'humain est capable du pire, peut inventer une bombe atomique, peut voter pour des gens, des fois des dictateurs, mais aussi les humains peuvent faire des choses magnifiques. Donc, c'est de se rappeler aussi de ça. Puis, Candide, l'histoire, c'est un optimiste qui, on peut se moquer de lui au début, on dit « Ah, il est un peu idiot », mais à la fin, je pense que c'est lui qui a raison. Il faut rester optimiste malgré tout. Il faut garder cette parcelle d'espoir-là, cette étincelle d'espoir et d'optimisme pour avancer dans la vie, sinon ça n'a aucun sens. Puis, comment pouvoir changer les choses? Comment, dit Candide, cultiver son jardin? Donc, dans son entourage, peut-être, si on s'occupe de notre petit coin de pays, notre entourage, nos amis, notre communauté, peut-être qu'on peut changer les choses à petite échelle, puis la petite échelle va devenir une grande échelle.
Ouais. Je me permets d'élargir un peu cette entrevue parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans les théâtres, notamment à Montréal. Puis surtout au théâtre de Nice-Petit, vous avez commencé la saison avec Rhinocéros, une relecture très d'actualité finalement. Et là, on est encore là, j'ai l'impression qu'il y a comme... puis on l'a vu aussi, on l'a vu dans d'autres théâtres, je peux dire. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, je pense qu'on vit une période... Ça tombe, c'est un hasard des fois, par exemple, parce que les saisons sont décidées souvent des années d'avance. Mais j'avoue, avec tout ce qui arrive dans le monde présentement, c'est tellement bouleversant. Ça fait des périodes où c'est difficile de voir la lumière. Puis un besoin, je pense, chez les artistes. Les artistes, de critiquer la société, de critiquer, de remettre en question, puis aussi de parler d'espoir aussi, puis d'essayer d'être le miroir un peu, c'est un cliché de dire, on est le miroir de notre société, mais je pense que on n'a pas le choix de s'impliquer, de s'affirmer, de discuter, de réfléchir, parce que on se sent, comme par exemple tout ce qui se passe aux États-Unis présentement, on a l'impression que la démocratie recule, et des humoristes qui... C'est des gens, Jimmy Kimmel, qui s'est fait pressement canceller, qui est revenu finalement, mais tu sais, ils ont-ils le droit de parler? Puis je pense que ça fait que les artistes ont encore plus, ramènent encore plus le besoin de dire, il faut discuter sur la place publique. Et le bien du théâtre, c'est que c'est des gens qui se regroupent ensemble. De plus en plus, les gens sont tout seuls devant leurs écrans, mais aller se regrouper en groupe dans une salle et parler, et discuter, réfléchir, rire aussi, je pense que ça fait profondément du bien.
On va parler des comédiens dans cette pièce, comédien, comédienne, Gabriel Favreau, donc dans le rôle de Voltaire.
Oui.
Alors, pourquoi ce choix?
Ah, oui, on a fait des auditions pour trouver Candide et c'est pas toujours évident. C'est drôle, et Gabriel était le premier à passer à l'audition et tout de suite, on a vu dans son regard, Gabriel a une, on pourrait dire, une tendresse dans son regard, une douceur. Il y a vraiment, il dégage cette espèce de pureté-là que Candide a. Parce que Candide, c'est ça qui est, c'est un peu comme l'idiot de Dostoïevski. C'est, faut pas justement jouer l'idiot. C'est pas un idiot. C'est un personnage qui est candide. Candide, ça veut dire quelqu'un qui est une espèce de pureté naïve, dans le sens que, mais qui a pas de malice, qui a pas de méchanceté, et qui est pas idiot pour, il est pas idiot. Il est juste pur. Il est juste sincère. Il est juste comme, tu sais, c'est une espèce de personnage. Qui a pas de malice. Quand je parle de Forrest Gump, c'est ça. Forrest Gump, c'est cette espèce de personnage qui traverse et qui, lui, a pas de méchanceté, il fait ses choses et tout ça. Et c'est pour jouer ça, c'est pas simple. Et Gabriel a vraiment cette capacité-là à travailler, à avoir ce regard-là. Et Candide évolue pendant le spectacle. Il part, et sa naïveté, au début, c'est un optimisme un peu vraiment naïf. Puis à la fin, il travaille, il reste optimiste, mais un optimiste réfléchi, un optimiste qui a pris conscience du monde qui l'entoure, comme un enfant. Un enfant, quand il sait rien, tout va bien, puis à un moment donné, oups, ça arrive à l'adolescence, on désillusionne un peu, mais de redécider de rester optimiste, ça demande un travail.
Tout à fait. Toute l'équipe, donc, vous avez 8 interprètes, comment cette équipe-là a embrassé cette espèce de folie, qu'on pourrait dire, de la création?
C'est une équipe formidable. Il y a des comédiens de vraiment différents âges, différents milieux. C'est formidable parce que mon travail dans ma compagnie, c'est toujours un travail de troupe. Donc, où les comédiens s'investissent à fond physiquement, ils jouent plein de personnages, ils manipulent du décor, ils manipulent des marionnettes, ils font plein de choses. Donc, ils se reposent jamais une seconde. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Et en même temps, je pense que on dirait que c'est très stimulant dans des spectacles comme ça parce que justement, il y a personne qui s'ennuie en coulisses. Donc, tout le monde donne du sien et cette notion du « nous » est là vraiment dans le spectacle. Ça parle de ça, mais sur scène, la manière qu'ils travaillent, ils n'ont pas le choix d'être dans ça. Tout le monde se soutient. Il n'y a pas de vedette dans le spectacle, même si Candide est toujours sur scène. Tout le monde est toujours sur scène. Donc, ça demande un travail très rigoureux et j'ai vraiment une équipe incroyable.
J'aimerais rappeler quand même que vous présentez cette pièce dans la grande salle du Théâtre Denis Pelletier. C'est aussi une salle qui attire beaucoup. Hein. À chaque fois que j'y vais, je vois des jeunes, beaucoup de groupes d'école et tout ça qui viennent. Ça sera la même chose pour Candide?
Bien sûr, naturellement. Aussi, Candide est souvent un conte, un roman étudié à l'école, oui. Secondaire, cégep. Et ce qui est intéressant avec la pièce, c'est que des fois, les jeunes ont plus de difficulté à attraper le deuxième degré dans le livre. Ils voient le dramatique, puis ils voient pas que c'est comique. Donc, la pièce va vraiment leur montrer ça, le côté ridicule, le côté critique. Et ça va pouvoir, j'espère, mener à des discussions avec après le spectacle sur ce qu'ils ont vu, mais aussi leur réflexion par rapport à tout ça. Donc, je pense que c'est intéressant de montrer ça à toutes les générations, mais aux jeunes en particulier. Je pense que c'est eux qui sont l'avenir, c'est idiot de dire ça, mais c'est eux qui vont être pris avec le réchauffement climatique puis tout ce qui arrive et tout ça, donc c'est leur question.
Puis, autres, puis tous les dictateurs qu'on leur a mis ça en place, effectivement.
Oui, c'est ça, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça?
Ça va être une bonne question. Hugo Bélanger, on va devoir s'arrêter ici. Je voudrais donc vous remercier, l'adaptateur, metteur en scène de la pièce Candide, qui est présentée du 11 novembre au 6 décembre au Théâtre Denis Pelletier. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Yeah.
Recevons l'ancien ministre et député québécois Sylvain Gaudreau, qui a quitté les bancs de l'Assemblée nationale pour se retourner à l'éducation en tant que directeur maintenant du cégep de Jonquière. Cela dit, il a quitté la politique active, mais il va nous dire qu'il n'a pas quitté la politique en général. Il est avec nous pour parler de son nouvel essai, Rupture et révolution, imaginer l'État-providence autrement, publié aux éditions Somme Toute. C'est un plaidoyer pour repenser l'État face aux grandes crises de notre époque. Bienvenue à l'émission Au quotidien.
Merci beaucoup, Monsieur Chabot.
C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Quel a été l'élément déclencheur de ce livre?
C'est une analyse avec un œil de génération X.
Ouais.
Moi, je me réclame, c'est pas de ma faute, là. Je suis né en 1970, donc je suis un pur produit de la génération X. Je commence mon essai en disant ça. Mais donc, un œil qui dit, ben, on est dans un monde différent. Comme membre de la génération X, j'ai connu la chute du mur de Berlin et tout ce qui a suivi en termes de rêve, d'utopie, de liberté, de surconsommation même. Mm-hmm. Et avec la crise climatique qui nous rentre dedans,
ouais,
avec la COVID, la pandémie, et avec le retour des guerres en Ukraine et à Gaza notamment, digne de la grande époque de la guerre froide, je me suis dit, ce n'était qu'un rêve.
Ah, on connaît une chanson,
ouais, vous l'avez dit. C'est ça, c'est pour ça que je le dis avec des guillemets. Là. Ce n'était qu'un rêve. Je me suis trompé sur cette période-là de 30 ans, un peu comme les 30 glorieuses. Et je pense que ce choc du retour au réel doit nous amener à revoir l'État-providence, réaffirmer l'importance, ouais, de l'État-providence, mais à la sauce 2025 avec les enjeux justement internationaux, climatiques et de santé publique que nous connaissons.
Vous parlez de trois ruptures, vous les avez nommées, ouais, mais on va les renommer.
Ah. Oui, les trois ruptures, pour moi, c'est... Puis on pourrait discuter, hein, parce qu'il, ouais, y a plein de monde qui me dit « Ah, Sylvain, le 11 septembre 2001, par exemple, ah, la crise financière de 2008, oui, oui, oui. » Mais pour moi, trois ruptures fondamentales, ouais. Donc, crise climatique, pandémie de COVID-19 en 2020 et le retour des guerres. Puis on l'a vu encore cette semaine avec le budget de M. Carney de 58 milliards en industrie militaire sur, ouais, 5 ans. Mm-hmm. Alors que bizarrement, il n'y a jamais de l'argent pour lutter contre, pour moi, ce qui m'apparaît la principale guerre, qui est contre le réchauffement climatique. Donc, ces trois ruptures-là, pandémie, crise climatique, retour des guerres, c'est comme un choc qui nous ramène à une révolution, qui nous amène, en fait, à la révolution de notre mode de vie.
Parce que là, on parle du rôle de l'État.
Ouais.
Et je sais qu'on revient sur l'État-nation, l'État-providence. Est-ce qu'il y a encore de la place pour ça?
Bien, plus que jamais. Ouais. C'est la question, la réponse va de soi, au sens où, quand il arrive un feu de forêt là, dans le nord du Québec, comme il est arrivé il y a 2 ans, ou une rivière qui déborde, ou une tornade, ou un ouragan, Qui sont les premiers à intervenir? Ce sont les agents de l'État, c'est la sécurité publique, c'est les services sociaux, c'est la santé. Lors de la crise de la COVID, imparfaitement, mais quand même, c'est l'État qui est intervenu dans les CHSLD pour gérer, pour coordonner la vaccination dans toutes les régions du Québec. Comme une messe à 1h de l'après-midi, tous les jours, on écoutait M. Legault avec M. Arruda nous expliquer les consignes. Sans État, on n'aurait pas pu faire ça. Puis avec une privatisation à outrance, on n'aurait pas été capable de soigner les personnes les plus vulnérables. Donc, on a besoin de l'État. C'est comme une famille. Quand on a un drame dans une famille, un deuil, un parent qui décède, une maladie, un incendie d'une maison, qu'est-ce qu'on fait? On se rassemble en famille, puis on se solidarise, puis on s'entraide. Bien, l'État, l'État-nation, puis sa déclinaison en État-providence, pour moi, c'est comme notre grande famille collective. Puis il faut la réaffirmer, cette famille-là, puis la mettre à jour en fonction des enjeux actuels.
Vous avez été ministre sous le gouvernement du PQ, un parti souverainiste. Est-ce qu'il y a encore de la place aussi pour la souveraineté du Québec dans le monde actuel qui semble se mondialiser?
Ben oui, moi la réponse c'est oui. Je le mentionne d'ailleurs dans mon livre. Je vous dirais que ce n'est pas au cœur de mon essai ou de mon analyse. J'en parlais davantage dans mon premier essai en 2021, Pragmatique, aussi chez Somme Toute. Mais pour moi, oui. À mon avis, il n'y aura pas de Québec libre sans Québec vert, puis il n'y aura pas un Québec vert sans Québec libre. Nous sommes fondamentalement, dans un pays qui est fondamentalement pétrolier, le Canada. Je souhaite que le Canada se sorte de cette dépendance au pétrole, mais le Québec pourrait aller plus vite, plus loin, en étant indépendant à cet égard, sans renier la solidarité nécessaire avec tout le reste des nations à travers le monde, incluant le reste du Canada. Donc oui, moi je pense que... Et vous savez, on commence cette semaine d'ailleurs la COP 30 à Belém. Et je suis profondément inquiet de l'absence du Québec. Pour la première fois depuis certainement 10-15 ans, sinon plus, le Québec sera absent par le ministre, qui sera absent, donc le ministre n'est pas là, à la COP 30, qui est pourtant une COP importante. C'est 10 ans de l'accord de Paris. Chaque État doit présenter son bilan puis cibler fixer des nouvelles cibles de réduction de gaz à effet de serre. On prétend avoir un gouvernement nationaliste, en tout cas un gouvernement qui se prétend nationaliste. Puis là où il peut faire valoir sur une tribune internationale sa distinction, bien, il n'est pas là.
Vous préconisez une nouvelle révolution tranquille, une révolution tranquille verte. Expliquez-moi ça.
Bien, c'est, je pense, un changement... Le changement de mode de vie qui est nécessaire à cause justement de la crise climatique, des risques de nouvelles pandémies notamment, nous amène à revoir carrément notre rapport à la société, à l'autre. Je plaide pour une révolution dite tranquille, parce qu'au Québec, on fait des révolutions tranquilles, et c'est tant mieux. Mais ce qui m'inspire beaucoup, c'est peut-être davantage la révolution industrielle. Du 18e, 19e siècle, où la société est passée d'un monde agricole, féodal essentiellement, à une société industrialisée, avec beaucoup de conséquences négatives, mais aussi un changement de mode de vie carrément. Moi, je pense que l'enjeu climatique nous amène socialement à envisager une révolution de ce type aussi important. Maintenant, il faut en retenir des leçons des révolutions passées. Jusqu'à quel point ça a favorisé les mieux nantis, les bourgeois, à l'époque de la révolution industrielle notamment. Alors, ça nous prend une révolution qui est juste, qui est pour les personnes qui sont les plus vulnérables, pour les générations futures également. Alors, c'est ce type de révolution-là dont je rêve.
Comment mobiliser les gens quand on sait présentement que c'est surtout les problèmes économiques causés par nos voisins du Sud? Comment on peut mobiliser les gens vers l'environnement qui a pris quand même un recul, là?
Un méchant recul qui se vérifie à tous les jours. En fait, ça prend d'abord du leadership. Présentement, on a un creux de leadership en matière climatique. Stephen Guilbeault lui-même est retiré du ministère de l'Environnement. Qu'on regarde partout à tous les échelons. Et au municipal, ça me donne un peu plus d'espoir, mais présentement, à l'échelon de l'Assemblée nationale ou du Québec et du Canada, il y a un vide en termes de leadership climatique. Je le déplore. Donc, ça prend des convictions, ça prend des connaissances, des compétences et l'affirmer que c'est le dossier le plus important. Ça, on n'a pas ça. Deuxièmement, il faut faire comprendre de façon bien, bien claire que l'impact des changements climatiques est très concret pour les gens. Quand il y a une maison qui part d'une rivière, là, parce qu'il y a un glissement de terrain, il me semble que c'est assez concret. Quand il y a une augmentation des maladies respiratoires, par exemple comme l'asthme, et les coûts qui vont avec en termes de soins de santé, quand il y a une personne âgée qui agonise parce qu'elle est dans une maison non climatisée ou un itinérant ou des enfants qui sont isolés sur un îlot de chaleur dans une cour de récréation puis qui en souffrent, me semble que c'est hyper concret. Donc, les effets des puis même pour les gens qui sont particulièrement intéressés par l'enjeu financier. Mm-hmm. Bon, ils vont me dire, Sylvain, tu rêves en couleur. Bien, parce que les dommages assurables, là, en 2024, là, à travers la planète, les dommages assurables reliés, les pertes assurables reliées au changement climatique, c'est 140 milliards.
Ouais.
C'est de l'argent, ça.
C'est du bidou.
Bien, ça veut dire que votre prime d'assurance, ouais, la mienne, pour ma maison, pour mon auto, vont augmenter. Bien, ça, je comprends pas qu'on n'est pas capable de faire comprendre ces impacts hyper concrets pour le monde. Ça, on n'arrête pas de dire, oui, mais le coût de la vie, l'inflation. Ben oui, justement, l'inflation puis le coût de la vie augmentent à cause de ces impacts des changements climatiques qui sont hyper concrets sur les gens. Donc ça devrait mobiliser. Puis dernière chose, pareille date l'année prochaine, on va être au lendemain d'une élection au gouvernement du Québec. Alors, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, les partis politiques, tous les partis, Parti québécois, Parti libéral, la CAQ, QS, même les conservateurs, se préparent pour leur plateforme électorale. Alors, il faut qu'ils soient influencés par la société civile, par les électeurs, les jeunes, les moins jeunes, pour dire la priorité numéro un, c'est la question climatique.
On va parler de vous rapidement. Il me reste quelques minutes. Vous avez quitté la politique active. Comment ça se passe pour vous maintenant?
Super bien. Ouais. Je suis archi heureux comme directeur général de Cégep. C'est un super Cégep avec des étudiants qui m'inspirent à tous les jours, où on brise tous les préjugés ou les clichés sur les jeunes qui, ah mon Dieu, sont pas comme nous, tu sais, là, une espèce de vision un peu passéiste. Au contraire, les jeunes sont hyper allumés et je suis heureux parce que, en fin de compte, on le disait hors micro, là, je fais de la politique à tous les jours.
Ouais.
Mais comme représentant d'un établissement d'enseignement supérieur pour défendre l'importance de l'accès à l'éducation pour tous, dans l'esprit de Feu Guy Rocher, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Puis c'est un enjeu encore tellement important. Défendre les cégeps, l'importance de ce réseau, mobiliser une communauté. Entre autres, je mobilise beaucoup mon cégep sur justement la question climatique. On va avoir une délégation d'étudiants présentement à la COP à Belém. Alors, je suis très, très heureux de ça. Alors, voilà.
Donc, qu'est-ce qui pourrait vous tenter de retourner? Peut-être un projet de société basé en politique active, si jamais. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui va... Non, jamais. Hein?
Non.
Même pas pour faire avancer ce que vous...
Ben, peut-être qu'il va avancer plus encore que si j'étais en politique active. Alors, non. Je suis extrêmement... Je trouve ça extrêmement efficace d'être directeur général de Cégep parce que les changements sont beaucoup plus concrets directement dans le monde qui m'entoure, immédiatement, en tout cas au Cégep. Puis... Non, je suis très, très bien. J'ai donné, puis voilà, j'influence différemment.
C'est autour de quelqu'un d'autre.
Oui.
Tout à fait. Merci beaucoup, Sylvain Gaudreau.
Merci.
J'aimerais rappeler donc que l'essai « Rupture et révolution, imaginez l'État-providence autrement » est disponible chez Somme Toute. Bon, on ne peut pas blâmer un gars qui s'essaye. J'ai essayé de voir si on aurait eu une annonce spéciale de retour en politique de Sylvain Gaudreau. Non, mais quand même, hein, il a critiqué sévèrement son ancien collègue Bernard Drainville, qui est maintenant ministre de l'Environnement, pour le fait de ne pas se présenter à la COP30 présentement au Brésil. Ah, ben, il y a des mesures de soutien liées au travail pour les personnes en situation de handicap. Ce programme, donc, à Terre-Neuve, offre aux adultes en situation de handicap des mesures de soutien, telles que des accommodements en milieu de travail, des mesures d'adaptation, des appareils technologiques d'assistance et de l'équipement technique jusqu'à concurrence de 5 000 $ pour les aider à chercher et obtenir ou à conserver un emploi. Alors, ça, c'est à Terre-Neuve et Labrador. On peut faire une demande à 1-800-563-6600, 1-800-563-6600, si vous êtes donc à Terre-Neuve et Labrador. Et puis, par courriel, c'est Employment Programs, en un seul mot, en anglais, à gouvernement@gov.nl.ca.
Ben, c'est le temps de vous dire au revoir. Alors, Hélène sera de retour demain à l'animation de l'émission. Et moi, je reviens mercredi et jeudi. Je remercie donc Mathieu Tessier et sa grande force et son grand courage de travailler avec moi à la régie aujourd'hui. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Passez une excellente fin de journée. Écoutez-moi à 17h, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On revient aujourd'hui. À plus tard.